Et bonsoir. Ma dernière étude, j'avais comme titre « Parler de notre Dieu ». Le titre de la deuxième, « Le Père, le Fils, numéro 2 ». On va maintenant regarder la miséricorde et les compassions du Père et du Fils, dont ils se servent pour pardonner, pour aider, relever et délivrer, et etc. Il y en a tellement. Le peuple d'Israël, et nous aussi comme enfants de Dieu. Amen. Savez-vous comment je vois le rapport entre la miséricorde et la compassion? La miséricorde et la compassion, c'est un amour. C'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation par le Père, le Fils et l'Esprit. Moi, je vois ça comme ça. Et pour l'homme, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, dans le besoin, et etc. J'ai affilié la miséricorde et la compassion ensemble, et je ne fais pas de différence entre les deux mots, parce que ces deux mots-là sont synonymes, donc pas de différence. Dans le psaume 116, verset 5, on nous dit, l'Éternel est miséricorde et juste, notre Dieu est plein de compassion. Combien de fois qu'une partie du peuple d'Israël s'est détournée et s'est éloignée de Dieu? Je n'ai pas calculé le nombre de fois que le peuple s'est éloigné de l'Éternel, leur Dieu, mais ça a été de nombreuses fois. Et pourquoi que Dieu lui-même est revenu plusieurs fois vers eux? Pour les aider dans leur détresse. Parce que Dieu les aime. C'est lui qui les a choisis pour être son peuple. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous démontrent la miséricorde et la compassion de Dieu. À cause de son amour pour l'homme, et même si son peuple, et nous aussi, enfants de Dieu aujourd'hui, péchons contre lui, Dieu ne rejette pas pour toujours son peuple ou ses enfants. C'est plutôt l'homme qui s'éloigne de Dieu et rejette Dieu, malheureusement. On nous dit dans Exode 2, 23, 25, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait pour son peuple? Beaucoup de choses pour nous aussi. Il les a délivrés de la main de Pharaon et son armée. On sait que Pharaon est allé a laissé aller le peuple de Dieu et l'Éternel les a guidés vers la mer Rouge. On sait aussi que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. On sait comment le peuple raidissait le cou devant Dieu, même après avoir été libéré de l'esclavage des Égyptiens et avoir vu tout ce que Dieu avait fait pour eux depuis leur sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. Ils ont donc été rebelles à la parole de Dieu. Est-ce que nous, enfants de Dieu, on est rebelles à la parole de Dieu? La réponse est bien simple et je vais répondre par une question. Est-ce qu'on est parfait? Non. Donc, on est rebelle à Dieu notre Père de temps en temps, lorsqu'on n'agit pas selon sa parole, que ce soit en parole ou en action. Un autre exemple, c'est lorsque le peuple est arrivé à Mara et que l'eau était amère. Ils ont murmuré contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse a dû crier à l'Éternel. L'Éternel lui a indiqué un bois à jeter à l'eau. Et l'eau est devenue douce et le peuple s'est abreuvé. Encore une fois, la miséricorde de Dieu a pourvu aux besoins de son peuple en les abreuvant Même si le peuple avait murmuré contre Moïse, mais en fait, c'était contre Dieu qu'il murmurait. Donc l'Éternel est un Dieu qui est prêt à pardonner. À pardonner de nouveau. Et à pardonner encore et encore. C'est ça notre Dieu. Un Dieu de miséricorde et de compassion. Qui est lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel n'a pas abandonné son peuple. Au contraire. Et il agit aussi de cette façon envers nous, ses enfants. Et merci, frère. Un autre exemple, lorsque l'Éternel a fait passer son peuple par le désert, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Dieu les a nourris de la manne. Dieu a pourvu à étancher leur soif. Pendant 40 ans, Dieu a pourvu à leurs besoins dans ce désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont point usés. Et leurs pieds ne se sont point enflés. Malgré tout, l'Éternel était avec eux. Encore une fois, la miséricorde et la compassion de Dieu étaient là. Puis, à la fin de leur marche dans le désert, Israël est arrivé dans les plaines de Moab. Qu'est-ce que l'Éternel a fait à ce moment-là? L'Éternel a parlé à Moïse et il lui a dit de parler aux enfants d'Israël en les mettant en garde contre les peuples du pays. C'est écrit dans Nombre 33, 51 à 56. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, Van sort de ma tête. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tout leur haut lieu. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais attention, au verset 55-56, c'est écrit, « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » L'Éternel Dieu ici donne en partage à chacune des tribus de son peuple ce que les habitants du pays avaient comme ville. Dieu aime son peuple. Dans l'Ancien Testament, le verbe hébreu se lit comme « raham » signifie « brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. » Voilà ce qu'est Dieu, ce qu'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Mais ne pas oublier les mises en garde que l'Éternel donne. Amen, oui. On va jeter un coup d'œil vers l'homme et la femme pour voir si ça leur est possible d'agir avec miséricorde et compassion envers les autres aujourd'hui. Exemple bien simple, l'amour d'un père envers son fils ou de ses fils, l'amour d'une mère envers son nourrisson, l'amour d'un homme envers sa bien-aimée et l'amour d'une femme envers son mari. Des exemples simples, mais... Donc, oui, ça existe vraiment la miséricorde et la compassion entre les humains sur cette terre. Et même, il y aura Dieu. Pour Israël, Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Il demeure miséricordieux et compatissant envers eux. Même si parfois le peuple s'en montre indigne, tout comme nous aujourd'hui, personne de parfait. La miséricorde et la compassion de Dieu est liée à son amour inébranlable qui se dit « Ezed » en hébreu qui, elle, est la preuve de la fidélité de Dieu et de sa grâce envers son peuple. Pour continuer avec la miséricorde et la compassion de Dieu, l'Éternel Dieu a multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux. Ils sont entrés dans le pays que Dieu avait promis à leur père en humiliant les habitants du pays. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de son peuple, ainsi que leur roi et les peuples du pays. Israël est devenu maître des villes fortifiées, des terres fertiles. Ils ont possédé des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes déjà creusées, des vignes, des oliviers et plein d'arbres fruitiers de toute espèce. Ces gens que Dieu avait accueillis comme son peuple ont été dans l'abondance par la miséricorde, la compassion et la grande bonté de leur Dieu, de l'Éternel Dieu. Par contre, l'homme étant ce qu'il est, après toutes ces bénédictions, ils se sont soulevés et révoltés encore contre l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté la loi, ils ont tué les prophètes qui allaient vers eux pour les ramener vers Dieu. Ils se sont livrés à de grands outrages contre leur Dieu. Alors l'Éternel les a abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les ont opprimés. Mais au temps de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a entendus du haut des cieux. Il est loin d'être sourd, ce Dieu-là. J'ai entendu ça dernièrement. Non, je ne vise pas pasteur. Non. Bon, si je t'ai rendu. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a entendus du haut des cieux. Et dans sa grande miséricorde et sa compassion, Dieu leur a donné des libérateurs qui les ont délivrés de la main de leur ennemi. Pour ceux qui lisent la Bible avec le petit feuillet bleu, lorsque vous serez rendus dans le livre de Néhémie, vous allez vous rappeler tout ce que cet homme a fait pour ramener le peuple d'Israël vers leur unique Dieu. Et pourquoi qu'il l'a fait? Parce que Dieu lui a mis à cœur d'agir pour la ville de Jérusalem. Et Néhémie a répondu, « Me voici. » Qu'est-ce qui s'est fait par la suite pour rabâtir Jérusalem? Dans Néhémie 2, versets 16 et 17, on nous dit, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux magistrats, ni aux grands, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. » Mike, sinon je parle vite. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Oui, amen. Mais lorsque l'on veut travailler pour accomplir un travail pour l'Éternel Dieu, il y a toujours des adversaires qui se présentent pour nous empêcher de faire notre travail. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a un nommé Sambala et ses hommes de main qui ont tout fait pour empêcher Néhémie et ses travailleurs d'avancer dans la reconstruction de la muraille de tout le reste. Mais malgré les obstacles que Sambala et sa gang leur ont causés, Néhémie a dit au peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons. » Et qu'est-ce qui est arrivé avec le projet de Sambala et sa gang? L'Éternel Dieu a anéanti leur projet, et les travailleurs sont retournés à leur ouvrage qu'ils ont terminé. Gloire à Dieu, un autre bel exemple de la miséricorde et de la compassion de notre Dieu. J'ai aussi quelques exemples avec le Seigneur Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Premièrement, la naissance du Messie se situe dans le prolongement de la miséricorde et de la compassion de Dieu, qui veut sauver son peuple, ainsi que les païens qui croiront au Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre 1, 3, 5, c'est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut être prêt à révéler dans les derniers temps. On sait que le Seigneur Jésus a toujours été prêt à répondre à l'appel des miséreux. Et c'est probablement de là que vient l'expression, j'imagine, « Il fut ému de compassion ». Quelqu'un qui est miséreux, c'est quelqu'un qui est dans la misère, dans le besoin, dans une cruelle nécessité. Quelqu'un qui est défavorisé, démuni, misérable et pauvre. C'est pas une vie idéale, ça. Exemple, dans Matthieu 9, 36 à 38, on nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison, de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et Matthieu 10, 1 nous dit, « Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. Cette miséricorde et cette compassion qu'avait le Seigneur Jésus lui vient de l'Éternel Dieu, son Père. Et cela a été une grande caractéristique de son ministère. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a guéri tant de malades. Il a guéri les infirmes, les aveugles, les lépreux, les boiteux, la femme cananéenne, le père d'un enfant épileptique, les démoniaques et tous ceux qui ont fait appel à sa miséricorde et sa compassion avec foi. Dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu est centré sur le peuple de son alliance, c'est-à-dire Israël. Mais dans le Nouveau Testament, Paul, que la miséricorde divine s'étend à tous les peuples, que la miséricorde divine s'étend à tous les peuples, donc à tous ceux qui croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est écrit dans le livre des Romains, chapitre 9, 11, que l'endurcissement partiel d'Israël a été la richesse du monde.
Amen.
C'est vrai. Oui. Pourquoi? Dans Romains 11, 30 à 32, on nous dit, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » Les païens, qu'on parle, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, Romains 11 nous dit que par le refus du peuple d'Israël à être obéissant à Dieu, leur chute a permis aux gentils d'avoir accès au salut de leur âme. Donc, nous qui autrefois n'étions pas un peuple, nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et oui, parce qu'il est riche en miséricorde et en compassion, Dieu rendit la vie avec Jésus-Christ ceux qui étaient morts par leur offense. Et n'oublions pas que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et par la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui ne font qu'un. Dans 1 Jean 13, verset 17, c'est écrit, « Dieu en a fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, l'Éternel Dieu est le Père des miséricordieux, le Dieu de toute consolation. Son Fils, mais, suit ses traces. On va regarder aussi la miséricorde et la compassion qui se manifeste autrement. Lorsque Élisabeth est avancée en âge, Dieu a permis qu'elle ait un fils qui devait être appelé Zacharie comme son père. Mais sa mère a dit non. Son nom sera Jean. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Et à ce moment-là, les gens autour étaient dans l'étonnement. Mais Zacharie, le père, a demandé une tablette parce qu'il était muet. Et il a écrit « Jean est son nom ». Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, parce qu'il était muet. J'ai changé de paragraphe. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre là. Au même instant, bon, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Cet homme a approuvé ce que Dieu demandait. Un autre exemple avec Saul, dans Actes 8, 1 et 3, c'est écrit, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Dans Actes 9, 3, 5, on nous dit de Saul, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il fallait qu'il y ait une fin à ça, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Il doit avoir fait le saut. Ben oui, il a tombé en terre. Il tomba par terre, c'est écrit. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ouf, j'imagine que cet homme saute à quel point qu'il devait être perdu dans ses pensées. Parce qu'il ne savait pas ce qui se passait, lui-là. Là. Lui qui était habitué d'agir en blasphémateur et en persécuteur de l'Église du Seigneur Jésus, il se retrouve aveugle. Et il entend une voix. Par la suite, on sait qu'il a retrouvé la vue par la miséricorde de Dieu et sa foi au Seigneur Jésus. Et il fut rendu fidèle et il est devenu un apôtre du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 5, verset 7, c'est écrit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mais dans Jacques 2, 13, c'est écrit, très différemment, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Donc, Dieu ne nous demande pas de juger les autres, mais d'agir avec miséricorde. Grosse différence. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, 9 à 12, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Mais, Matthieu 9, 13, dans Matthieu 9, 13, le Seigneur parle et dit, « Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice.
Amen.
Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On l'était tous, on l'est encore. Je vais vous lire dans le livre de Romains, je vais terminer avec ça, de l'apôtre Paul. C'est écrit, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la loi. » De la foi, c'est-à-dire, excusez, de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, mais persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La colère, car il est... Bon, on ne commencera pas. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Pour terminer, je me suis posé la question, de quelle façon est-ce qu'on peut être, nous, enfants de Dieu, reconnaissants envers la miséricorde et la compassion de la Sainte Trinité pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore pour chacun de nous dans nos vies de tous les jours. Je crois que c'est en retenant ce qu'ils nous ont appris par la parole, le mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, de témoigner le nom de notre Sauveur afin que la dernière âme soit sauvée et que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. C'est court, cool, mais je crois que ça résume ce qu'on devrait toujours faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour les ministres qui ont comme désir de servir Dieu et lui seul. Et prions les uns pour les autres.
Amen. On va lire la fin du message de l'apôtre Paul tant qu'il est allé à la ville d'Athènes. Dans Actes 17, au verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. La conclusion, c'est que Dieu a démontré en ressuscitant Jésus qu'il y a une vie après la mort. L'apôtre Paul, quand il parle à Corinthe, il lui dit que comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Aussi vrai que tout le monde meurt, tout le monde va ressusciter. À cause de ça, Dieu a fixé un jour qu'il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné Christ. Il a donné une preuve certaine en ressuscitant d'entre les morts. C'est la preuve qu'il y a une vie après. Donc, il demande une chose. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce que tous vont avoir un compte devant Dieu. Ça, c'est clair comme message. Les auditeurs qui étaient là, la réaction qu'ils ont eue, quand ils ont entendu parler de la résurrection des morts, ils ont dit, ils sont moqués. Ils se sont moqués de ça. C'est délire, Paul, la résurrection des morts. Dans ta tête, ça se passe. Tes idées, tu te fais. D'autres ont dit, on t'entendra là-dessus une autre fois. Par contre, on nous nomme deux personnes, Denis et Damaris, qui ont cru eux autres. Deux qu'on nomme. Je lis un peu plus loin, le verset 1 du chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Je pensais à ceux qui s'étaient moqués de lui, puis que les autres qui avaient dit « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Après cela, Paul est parti. Et la conclusion que moi j'apporte, tant que le bateau passe, des fois, c'est mieux de le prendre. Parce que ça se peut qu'il ne repasse pas. Si t'es ici ce soir et tu n'es pas sauvé, sois sûr d'une chose. Un jour, tu vas passer en jugement à rendre compte devant Dieu. En attendant, il y a une opportunité qui t'est offerte, c'est de te repentir. De reconnaître que tu es pécheur, que Christ est mort à ta place pour la rémission de tes péchés, qui est enseveli, Dieu l'a resté d'entre les morts, une démonstration de la vie éternelle, puis un jugement. La recommandation que je peux vous faire, manque pas de bateau tant qu'il passe.